Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La répression des manifestations anti-pouvoir militaire se poursuit au Soudan. Un manifestant a été tué hier à Khartoum. L'attaque du groupe État islamique contre la prison d'Assaqeh dans le nord-est de la Syrie a fait 373 morts. C'est un nouveau bilan établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'association SOS Racisme porte plainte contre Éric Zemmour après que le candidat à l'élection présidentielle a considéré que la délinquance en France était du fait des immigrés ou des enfants d'immigrés. Nous écouterons le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. La Coupe d'Afrique des Nations, victoire de l'Égypte hier face au Maroc, victoire de buts à 1. Les pharaons sont ainsi qualifiés pour les demi-finales. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier était le professeur André Miquel, traducteur d'arabe. Il s'est intéressé aux auteurs arabes du Moyen-Âge, extrait dans votre journal. La répression des manifestations anti-pouvoir militaire se poursuit au Soudan. Un manifestant a été tué hier alors que des milliers de Soudanais convergeaient une nouvelle fois vers le palais présidentiel de Khartoum. Ils dénonçaient le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan. Malgré les soldats en armes qui bloquaient les routes et ponts et les blocs de ciment installés devant le QG de l'armée et le palais présidentiel, la mobilisation perdure contre le pouvoir militaire. L'attaque du groupe État islamique contre la prison d'Assaqeh dans le nord-est de la Syrie a fait 373 morts, un nouveau bilan établi hier par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les personnes tuées, 268 djihadistes, 98 membres des forces kurdes et 7 civils. De nouveaux cadavres de Kurdes mais aussi de djihadistes ont été retrouvés durant les opérations de ratissage dans les bâtiments de la prison et les quartiers proches de l'établissement. Les forces démocratique syrienne avait déclaré mercredi dernier avoir repris le contrôle de cette prison après 6 jours d'intenses combats, mais des combats sporadiques les ont ensuite opposés aux membres de Daesh à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. En France, l'association SOS Racisme porte plainte contre Éric Zemmour. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle a considéré sur l'antenne de Public Sénat que la délinquance en France était du fait des immigrés ou des enfants d'immigrés. Pour le président de SOS Racisme, il faut empêcher que ce type de propos soit banalisé. Dominique Sopo.
Nous avons décidé de porter plainte à l'encontre d'Éric Zemmour parce qu'il nous semble que lors de son dernier passage sur Public Sénat, il a tenu des propos qui contreviennent à la loi en expliquant une fois de plus que la totalité des délinquants étaient des immigrés ou des enfants d'immigrés, ce qui évidemment est totalement faux sur le plan factuel. Et par ailleurs, en liant cette situation à une réalité prétendue d'un ensauvagement de la France. Donc ce que l'on constate, c'est que d'abord Éric Zemmour a déjà été condamné pour des propos sur la délinquance qu'il reliait à l'immigration et aux enfants d'immigrés en parlant des Noirs et des Arabes. Hein, c'est la première condamnation que nous avions obtenue à son endroit en 2011 pour des propos qu'il avait tenus dans une émission sur Canal+. Donc nous portons à nouveau plainte contre ce candidat d'extrême droite qui manifestement a décidé de faire de la campagne présidentielle non pas un moment pour présenter un projet aux Français, mais une tribune pour venir déployer, divulguer, dégueuler, si je puis dire, sa haine raciste à chacune des occasions médiatiques qui lui sont offertes.
Il est important pour vous que ces propos ne soient pas banalisés. Vous n'entendez pas les laisser passer.
Oui, je pense que Éric Zemmour profite de cette campagne des élections présidentielles pour être dans la répétition quasiment obsessionnelle de sa vision raciste du monde. Et la répétition d'un propos vise évidemment à le rendre banal, à le rendre acceptable, à en faire un propos qui correspond à ce qu'on entend communément. Et il est important de ne pas se laisser impressionner par la force et l'indécence avec laquelle cet individu répète ses propos, pas plus qu'il ne faut laisser ses propos donc passer sans ne rien dire. Donc il y a évidemment la dimension judiciaire que nous activons à travers cette plainte, dont nous verrons si elle prospère, mais je tiens également à faire remarquer que au-delà de la réponse judiciaire, c'est un combat politique aussi, c'est un combat culturel qu'il faut mener tout ne se règle pas par des procédures judiciaires. Et c'est pour ça que j'appelle aussi les uns et les autres à s'engager, à revaloriser peut-être aussi les combats collectifs pour ne pas laisser ces individus finalement pourrir le débat public comme ils l'ont fait sur ces derniers mois avec une complaisance assez révoltante de très nombreux médias qui lui ont quand même ouvert leurs ondes et ça va bien au-delà de CNews.
Quand vous dites les uns et les autres, vous ne pensez pas uniquement aux médias. À qui pensez-vous ?
Je pense aux médias, tout d'abord. Je rappelle quand même que Éric Zemmour a eu de très nombreuses collaborations dans les médias. Mais bien évidemment, on constate aussi que dans l'espace politique, il y a une forme de complaisance vis-à-vis de ce que porte Éric Zemmour. D'ailleurs, Éric Zemmour, finalement, il faut aussi le voir comme un symptôme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vient révéler un air du temps. On voit bien, par exemple, que Éric Ciotti est sur des propositions qui sont extrêmement proches, et il ne s'en cache pas d'ailleurs de celles d'Éric Zemmour. Je m'inquiète quand même de voir aussi Valérie Pécresse parfois dériver vers des propos, des analyses qui se veulent en réalité des clins d'œil vis-à-vis de l'électorat d'Éric Zemmour. Bon, voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi la nécessité que chacun soit à la hauteur que l'on peut attendre de lui ou d'elle dans une campagne présidentielle qui ne peut pas être simplement une longue séquence ou une longue accumulation de séquences de polémiques racistes ou de polémiques qui font une place absolument centrale à une vision patriarcale du monde, à une vision homophobe du monde, à une vision qui n'est même pas capable de faire une place à des enfants handicapés dans des écoles. À un moment donné, ça suffit, ça ne peut pas être ça, un débat présidentiel en France.
Il ne faut pas que l'on s'habitue à ce que l'extrême droite passe le premier tour de l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est important, le fait de ne pas banaliser cela.
Bien évidemment, je pense que nous avons peut-être d'ailleurs l'occasion cette année à ce que l'extrême droite ne soit pas au second tour. Alors malheureusement, par le fait qu'il y ait deux candidats qui se partagent les voix de l'extrême droite, parce que je rappelle au demeurant que nous sommes dans une situation dans laquelle l'extrême droite est, pour une partie d'entre elles, de façon totalement décomplexée lorsqu'on pense à Éric Zemmour, qui ne prend même plus les gants que prend Marine Le Pen, sur laquelle je n'ai certes aucune illusion, mais on voit que le pacte d'extrême droite, y compris dans sa forme la plus décomplexée, représente aujourd'hui dans les sondages plutôt quelque chose autour de 30% des voix et même plus au premier tour. Et il ne faut pas s'habituer à avoir cette place centrale de l'extrême droite dans la vie politique française. Vous savez, pendant longtemps, des gens nous ont expliqué que si l'extrême droite était forte, c'est parce qu'il y avait trop d'antiracisme dans ce pays. Et ça fait 20 ans que l'on entend ce discours, et notamment 10 ans avec beaucoup de force avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National. Et bien que tous ceux qui ont dit ça viennent expliquer comment après 10 ans ou 20 ans de marginalisation de la parole antiraciste dans ce pays, dans l'espace médiatique, on en arrive là, parce que ce serait très intéressant de voir quel est leur bilan, mais peut-être que finalement c'est le bilan qu'ils recherchaient.
Vous avez connu Dominique Sopo dans les années 90, les années 2000, les manifestations contre l'extrême droite, les manifestations de la jeunesse contre l'extrême droite. Pourquoi ne les voit-on plus aujourd'hui ? Pourquoi n'ont-elles plus lieu, ces manifestations ?
D'abord, je pense que quand on a une extrême droite qui, de façon aussi constante, est dans le paysage politique, il y a une forme de banalisation qui s'opère. Le deuxième élément, c'est le fait que depuis des années, on explique que c'est contre-productif de lutter contre l'extrême droite, que toute une série d'éditorialistes, d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels, de journalistes, en fait, ont contribué très activement à la marginalisation de la parole antiraciste, ont cherché et continuent à chercher à la délégitimer. Et donc, à partir de là, évidemment, que cela pèse sur la capacité des mobilisations. Et puis, par ailleurs, je pense qu'on est aussi dans une société qui ne sait pas faire la place à sa jeunesse, qui a plutôt tendance à lui écraser la tête, à la moquer, à vouloir la maintenir en laisse, si je puis dire, et à ne pas lui laisser d'espace de mobilisation. On le voit d'ailleurs sur nos sujets, où quand on voit la façon dont la jeunesse peut être moquée, accusée de wokisme, comme si c'était devenu un gros mot après avoir été qualifié d'islamo-gauchiste volontiers par le camp réactionnaire qui est vraiment à l'offensive ces dernières années dans notre pays, eh bien on voit bien que cela peut impressionner, cela peut couper les ailes de la mobilisation, mais je pense qu'il faut faire confiance dans la jeunesse pour être au rendez-vous de la mobilisation et de l'indignation face à l'extrême droite. Il y a aussi des effets de génération, et je pense qu'on est face à une jeunesse qui a envie de reprendre le chemin de l'égalité. Je pense que c'est la responsabilité de chacun de l'y accompagner.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Les talibans et leurs alliés sont accusés d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres de la sphère gouvernementale et des forces de sécurité afghanes, mais aussi d'Afghans qui ont travaillé avec les troupes étrangères. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU. Ce document constate aussi une sévère restriction des droits humains en Afghanistan depuis que les talibans se sont emparés de Kaboul le 15 août dernier. Les talibans qui ont rejeté les accusations contenues dans ce rapport. Les Émirats Arabes Unis affirment aujourd'hui avoir intercepté pour la troisième fois ce mois-ci un missile balistique lancé par les rebelles yéménites Houthis. Les débris du missile sont tombés dans une zone non peuplée et aucune victime n'est à déplorer. Cette attaque coïncide avec la première visite officielle du président israélien à Abu Dhabi depuis que les deux pays ont normalisé leurs relations en 2020. L'Union européenne condamne la peine de 8 ans de prison et 70 coups de fouet infligés en Iran à la militante des droits de l'homme Narges Mohammadi. L'Union se dit inquiète pour son état de santé et appelle l'Iran à respecter ses obligations dans le cadre du droit international et à libérer immédiatement Narges Mohammadi, prenant également en considération la dégradation de son état de santé. La victoire de Christiane Taubira à la primaire dite populaire pour la présidentielle française d'avril. L'ex-ministre de la Justice de François Hollande a appelé hier soir les autres candidats de gauche à l'union et au rassemblement et nombre d'entre eux ont déjà affirmé qu'ils entendaient poursuivre leur campagne. La Coupe d'Afrique des Nations, victoire de l'Égypte hier face au Maroc, victoire de 2-1. Les Égyptiens affronteront le Cameroun en demi-finale. Ce sera jeudi à 20h. Samedi dernier, la Tunisie a été battue par le Burkina Faso 1-0. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier était le professeur André Miquel, traducteur d'arabe. Il s'est intéressé aux auteurs arabes du Moyen-Âge, des auteurs qu'il invite les jeunes à redécouvrir pour connaître les valeurs du monde arabe. André Miquel.
Je pense que la poésie, puisque je me suis vraiment attelé beaucoup et aux géographes arabes du Moyen-Âge et à la poésie, parce que la vision du monde autour de soi, d'une part, et la vision intérieure que l'on a de soi-même, la poésie d'autre part, peuvent créer et fortifier un juste regard sur la vie. Et j'ai voulu, dans toute mon œuvre, voir ce que le mot arabe voulait dire, comme définition.
Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot arabe, André Miquel ?
Je veux dire être fidèle à une tradition de communication, de dialogue avec les autres peuples, y compris pour marquer des différences. Il me vient un vieux souvenir. À travers mes géographes, lorsqu'ils parlent de l'Inde, ils redisent les propos des marchands qui commercent par là-bas et jusqu'à la Chine, et l'Inde les fascine parce que ils trouvent qu'en Inde, l'atmosphère est à la recherche d'un dieu, mais d'un dieu qui, je dirais, qui serait imparfait par rapport à celui de l'islam. Et c'est pour ça que j'avais dit, après les géographes, en formulant ce qui était le fond de leur pensée, que les Indiens, pour eux, étaient des musulmans à qui la grâce aurait manqué.
Pouvez-vous nous parler de vos recherches précisément sur les géographes arabes, des recherches qui devaient entrer dans le projet général d'une géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XIe siècle? Quelle était la vision du monde de ces géographes arabes?
Oui, alors, l'ensemble fait 4 volumes qui se sont, et dans la rédaction, s'est étalé sur quelques 20 ans à peu près. Le premier voulait recager, si j'ose dire, la géographie arabe dans le système culturel de l'époque, la DAB dont nous parlions. J'ai voulu montrer comment les géographes arabes avaient voulu intégrer cette cette science à la culture de l'honnête homme. Le second parlait de la vision du monde, de la terre et de l'étranger, des peuples étrangers. Le troisième tome du milieu naturel, les plantes, les arbres, le ciel, l'eau, etc. Et le quatrième, des activités humaines. Voilà. Autrement dit, l'ensemble, pour moi, s'est bâti autour d'une idée fondamentale, comment les Arabes voient de cette époque. En gros, du milieu du 8e siècle au milieu du 11e, comment ont-ils vu le monde, comment ont-ils voulu le voir aussi, ce qui est au moins aussi important.
Le professeur André Miquel, il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier, une émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Mohamed Lamine Gassama, référent à La République en marche dans le 20e arrondissement de Paris, une émission présentée par Loïc Barrière. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 16, à midi 30, votre journal en langue arabe, présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.